Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est François Damerval, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional, conseiller municipal de Draveil. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, François Damerval, Emmanuel Macron a fait un aller-retour à Sharm el-Cheikh à l'occasion de la COP27. Les travaux sur le réchauffement climatique vont durer 15 jours. Aujourd'hui, le chef de l'État a réuni les entreprises qui émettent le plus de CO2. Qu'attendez-vous de ce sommet sur le réchauffement climatique en Égypte ?
Alors, j'ai toujours considéré que les sommets, en fait, contribuaient à mobiliser la société civile et avoir une réponse de la société civile. Il y a aujourd'hui une mobilisation des États, mais la mobilisation des États n'est pas au niveau nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Donc moi, de ces sommets, j'attends toujours une réponse de la société civile plutôt qu'une réponse étatique, sachant que la réponse étatique doit aller quand même dans le bon sens. C'est tout l'enjeu de pertes et profits au profit des pays, notamment les plus pauvres et des pays du Sud.
Alors justement, les pays du Sud subissent plus que les pays du Nord les conséquences du réchauffement climatique, alors qu'ils émettent moins de CO2. On a tous en tête les inondations meurtrières au Pakistan cet été. Est-ce que cela donne une responsabilité particulière aux principaux pays responsables du réchauffement climatique ?
Alors on a les images du Pakistan, certes, mais au-delà des images de cet été au Pakistan, il y a actuellement une crise sanitaire qui est en train de se dérouler en Somalie et dans toute la corne de l'Afrique, où vous avez aussi des inondations au Soudan du Sud. Et c'est dommage de détourner les yeux de cette zone du monde parce que aujourd'hui il y a des enjeux qui sont absolument majeurs et on parle très peu de cette zone du monde. Et oui, c'est les pays principalement responsables, pays historiques en matière d'émissions de gaz à effet de serre, qui ont une responsabilité et qui doivent aujourd'hui apporter une réponse à ces pays.
Vous pensez aussi que la question des réfugiés climatiques est sous-évaluée en Occident ?
Mais comme toutes les questions concernant les réfugiés climatiques et concernant de manière générale l'immigration, quand vous posez mal un problème, vous aurez forcément une mauvaise réponse. Aujourd'hui, il faut clairement voir que les déplacements de population à travers le monde touche d'abord les pays du Sud, intra-pays du Sud, et qu'une petite partie de cette population migrante arrive en Europe et ou dans les pays du Nord, mais cette population est très mal intégrée. Aujourd'hui, il n'y a pas de système d'intégration des populations, et on ne peut pas dire que l'accueil qui est réservé aux populations migrantes, notamment dues aux conséquences du changement climatique, sont clairement prises en compte. Il faut bien voir que la question du changement climatique, c'est pas qu'une question de sécheresse ou d'inondation, c'est aussi une question de pandémie, et c'est aussi et surtout une question de guerre. Quand vous vous battez pour un accès à ressources en eau, vous avez des mouvements et des conflits armés sur des territoires, et des guerres et des luttes pour des territoires. Et toute cette question du changement climatique rebat les cartes, et il serait peut-être temps qu'on prenne en considération l'intégralité de ces points pour avoir une réponse adaptée aux populations. Et surtout, il faut clairement se poser la question aujourd'hui qu'on est passé dans une phase inverse de la phase qu'on a connue pendant 40 ans. Si pendant 40 ans, nous avions un gros problème de chômage en Europe, il faut bien se rendre compte que dans les 20 à 30 ans à venir, nous aurons un problème exactement inverse, qui sera un problème de main-d'œuvre pour les pays européens. Et ça doit nous poser la question de rebattre les cartes sur la question de l'intégration des populations migrantes en Europe.
François Damerval, l'OMS a révélé que les canicules de cet été ont fait au moins 15 000 morts. Est-ce que la rénovation thermique des bâtiments pourrait contribuer à protéger davantage la population lors des prochains pics de chaleur ?
Alors, c'est une adaptation complète de notre modèle et de notre société qu'il va falloir mener. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de la rénovation thermique permet d'abaisser la chaleur au moment des pics de chaleur, mais cette question doit être posée plus largement sur la question de l'accès à la nature et sur la question des îlots de chaleur dans les villes. Et d'ailleurs, il serait intéressant de pousser au-delà la question du nombre de morts en regardant la sociologie et en caractérisant les zones de vie de chacun des cas exceptionnels qu'on voit par ces décès du fait d'une forte chaleur. Mais ça serait intéressant de pousser l'étude sur ces pics de chaleur et sur la causalité des décès.
Vous avez une idée derrière la tête quand vous dites qu'il faudrait étudier davantage ces cas ?
Oui, clairement aujourd'hui on voit dans la catégorie sociale, vous avez des gens qui sont plus pauvres, qui sont plus soumis à la question de conditions de logement qui ne sont pas adaptées à résister à des pics de chaleur. Aujourd'hui, on voit clairement que la rénovation thermique se fait plus dans les milieux CSP+, que dans les milieux populaires. Et toute cette question, notamment de ce qu'on a appelé pendant très longtemps, et ce que mes parents, grands-parents appelaient les cages à lapins, c'est-à-dire tous ces logements qui avaient des grille-pains à l'intérieur, des chauffages électriques à l'intérieur, et qui n'étaient pas du tout isolés. Et on se rend bien compte qu'en période de canicule, vous avez des températures qui augmentent fortement, et en période de froid, et ils ne sont pas isolés, donc vous consommez beaucoup plus d'électricité, et c'est un coût qui est absolument conséquent pour les foyers. Je rappelle, parce que c'est quelque chose que j'aime bien rappeler, une facture électrique, c'est une consommation multipliée par un prix unitaire. Si votre prix unitaire augmente, il faut baisser la consommation, et pour baisser la consommation, il faut isoler le logement.
Alors, les régions sont en charge des lycées, François Damerval. Est-ce que certains lycées devraient totalement être rénovés pour éviter que les adolescents souffrent du froid en hiver et de la chaleur quand les températures augmentent ?
De toute façon, l'intégralité des lycées doit connaître des rénovations régulières. Et donc, à partir du moment où vous faites une rénovation, aujourd'hui, il faut clairement améliorer la performance énergétique de tous les bâtiments publics. Au-delà de ce point, je vois deux questions dans votre propos. Le premier, ça serait déjà d'adapter le calendrier scolaire par rapport à une évolution de la carte des températures et de la carte météorologique. C'est-à-dire que à partir du moment où on constatera qu'il va y avoir de plus en plus de pics de chaleur au mois de juin, il faudra peut-être se poser la question de décaler la date des examens. Ça va être le premier point. Ensuite, sur la question des lycées, il va falloir augmenter fortement dans tous les lycées la présence de végétaux qui contribuent à faire baisser la température au niveau global. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, vous avez un très beau lycée qui s'appelle le lycée Chériot à Vitry. La région Île-de-France a décidé d'abattre 40 marronniers qui ont plus de 100 ans. Ces marronniers contribuent à faire de l'ombre au lycée. Et dans le cadre de la rénovation, on va avoir un lycée où il y aura plus d'arbres qui auront été plantés, mais pendant les 30 ans qui vont venir, vous aurez des niveaux de température qui seront beaucoup plus élevés parce que vous n'aurez pas la contribution de ces marronniers. Quand vous pensez aujourd'hui des travaux, il faut imaginer ne pas abattre d'arbres ou abattre uniquement les arbres qui sont malades, histoire de continuer à garder l'intérêt qu'apportaient les arbres sur votre rénovation et sur votre bâti.
François Damerval, les experts disent que nous devons changer aussi de modèle agricole pour privilégier notamment les circuits courts, mais cela semble très complexe de mettre en place un tel processus. Comment accompagner les agriculteurs, mais aussi la grande distribution et les consommateurs ?
Alors, sur la question d'accompagner les agriculteurs, la question notamment des marchés publics, et des contrats des marchés publics peut fortement aider aujourd'hui une évolution du mode de fonctionnement du système agroalimentaire dans notre pays. Je pense qu'au-delà de ça, il va falloir avoir un caractère incitatif, notamment sur la question de la fiscalité, pour permettre d'avoir une baisse de la fiscalité sur les produits qui sont les plus vertueux. Et au-delà, ça amènera aussi le consommateur à changer d'habitude, puisque plus le produit sera vertueux, moins il sera cher. Et je pense que ce sont tous ces mécanismes-là qu'il faut mettre en place. Et au-delà, sur la question même de l'agriculture, il faut reposer l'intégralité du modèle, puisqu'aujourd'hui, le modèle repose uniquement sur de grands propriétaires qui ont constitué un capital de rente. Et vous avez des petits agriculteurs aujourd'hui des paysans qui n'arrivent plus à vivre et qui n'ont pas les revenus nécessaires pour pouvoir vivre, quand vous avez des grands céréaliers qui gagnent des fortunes. Et c'est ce système-là qu'il faut reposer par rapport à un capital qui est extrêmement mal réparti aujourd'hui.
Alors, il y a quelques jours, les écologistes ont dénoncé la création de méga-bassines dans les Deux-Sèvres. Il s'agit de retenues d'eau destinées à l'irrigation agricole. Pourquoi les écologistes sont-ils vent debout contre ce type de projet ?
On ne va pas revenir sur la question hydrologique parce que, de toute façon, chaque parti a ses propres experts. Moi, j'aimerais revenir sur un caractère plus philosophique de cette question des méga-bassines. En fait, que disent les méga-bassines ? C'est que 200 gros propriétaires vont pouvoir privatiser des millions de mètres cubes. Des millions de mètres cubes d'eau qui ne seront plus en service et qui ne seront plus accessibles à l'intégralité des populations. Et rien que cette question de la privatisation d'une ressource si fondamentale pour notre pays, je pense que c'est un mauvais choix. Je me souviens de René Dumont, qui avait dit qu'il buvait un verre d'eau au moment de la campagne de 1974, il n'avait pas totalement tort. Aujourd'hui, la guerre de l'eau est enclenchée, que ce soit par les majors que sont Suez et Veolia, qui ont aujourd'hui un monopole de rente, ou que ce soit aujourd'hui avec les agriculteurs qui veulent privatiser une partie des ressources.
François Damerval, les actions radicales des écologistes se multiplient, autoroutes bloquées, actions dans les musées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a parlé d'éco-terrorisme. Est-ce que de telles actions restent nécessaires pour mettre la pression sur les pouvoirs publics ou bien sont-elles contre-productives dans le sens où elles donnent une mauvaise image de l'écologie ?
Ce sont des mots, et je ne veux pas revenir sur les mots du ministre de l'Intérieur, ce sont les siens. Moi, je remarque juste que chaque période a eu son modèle d'action et par la part des militants, etc. Je me souviens que dans les années 2000, José Bové démontait un McDo quand Corinne Lepage menait la guerre juridique sur la question des OGM. Les deux luttes menées par José Bové ou par Corinne Lepage ont conduit à ce qu'il n'y ait pas d'OGM aujourd'hui en France et en Europe, tout au moins dans à destination du consommateur. Et rien que ça, il faut se dire que ces modèles sont complémentaires et qu'ils ne s'opposent pas. Chacun son type de revendication, chacun son type de manière de revendiquer. Et moi, je n'oppose pas les deux. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que chaque mouvement soit quand même non violent, puisque c'est une question de principe. La violence ne peut pas résoudre ce type de conflit.
Alors, des responsables écologistes proposent de rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur l'autoroute, une mesure jugée acceptable pour 68% des Français. Quel serait l'impact d'une telle mesure sur la consommation d'énergie, mais aussi sur le réchauffement climatique ?
Du même niveau qu'un pansement sur une jambe de bois. La vraie problématique aujourd'hui de la vitesse sur autoroute, c'est pas la vitesse sur autoroute, c'est l'accessibilité du train. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir pourquoi il n'y a pas assez de RER ou d'intercités dans notre pays. On peut se poser la question de l'accès au train quand le prix d'un billet de TGV est absolument hors de prix et quand sur des longs week-ends, vous ne pouvez pas accéder à un TGV tout simplement parce que le prix ou la saturation des TGV fait que le départ en vacances à Noël ou quoi que ce soit est devenu absolument impossible. Je pense que c'est une mauvaise question que de parler de la limitation de la vitesse sur autoroute. Moi, je plaiderai aujourd'hui pour un plan d'investissement massif sur le train et ça sera beaucoup plus utile que une mesure qui vise à réduire la vitesse sur autoroute dont on aurait une conséquence extrêmement mineure. Je préfère réduire le nombre de voitures sur autoroute que la vitesse.
Techniquement, il serait possible de rétablir les lignes de train abandonnées, de rouvrir les gares désaffectées ?
C'est juste une question de moyens. Si on veut le faire, on peut le faire. Il y a des pays qui ont réussi à le faire, etc. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne transformerait pas des routes ou des autoroutes en voies TGV. Ça serait assez rapidement et ça serait beaucoup plus rentable pour la société. Parce qu'un train coûte beaucoup moins cher en matière de coûts sociaux qu'une autoroute.
Considérez-vous nécessaire, François Damerval, de produire du biogaz français en équipant les décharges et les stations d'épuration, ce qui permettrait peut-être de réduire la part du gaz importé?
Au-delà même de cette question, c'est que ce gaz, il est produit. Donc, autant essayer de récupérer et de le réinjecter dans le réseau, j'y vois un intérêt. Et plus il y aura de gaz, j'aime pas trop le mot bio devant biogaz, je préfère souvent les agro-gaz ou les gaz issus de déchets, parce que c'est plus réaliste que de dire que quelque chose est bio. Mais plus on fera rentrer ce type de gaz vert ou gris dans notre consommation, moins on sera dépendant des dictatures productrices de gaz du type pays du Golfe ou Russie.
Alors, une grande partie des Français se chauffe au gaz, une énergie productrice de CO2. Comment aider les Français à changer d'énergie? Aucune des alternatives disponibles ne semble idéale pour le moment. Je pense notamment aux personnes qui vivent en appartement.
Avant même de dire changer d'énergie, la première des choses, c'est de baisser notre consommation. Il faut parler de rénovation. C'est le premier et principal enjeu, c'est aujourd'hui de baisser notre consommation. Ensuite, que vous ayez des systèmes qui soient délocalisés ou centralisés de production d'énergie pour la consommation et notamment pour le chauffage derrière. Il n'y a pas de système qui soit purement vertueux. Mais aujourd'hui, on voit clairement que si vous arrivez à produire une électricité décarbonée, le système des pompes à chaleur peut se montrer plus vertueux. Et au-delà du système décarboné, moi, je préfère une production d'électricité qui soit renouvelable, donc c'est-à-dire ni fissile ni fossile, pour avoir le meilleur mix énergétique aujourd'hui au niveau français. Et on a un vrai enjeu, nous, Français, puisque on aime souvent nous présenter comme étant les plus vertueux. Aujourd'hui, on a trop de maisons qui sont mal isolées et qui ont un chauffage électrique avec souvent des grille-pain. Et on a un vrai enjeu aujourd'hui à isoler ces maisons pour faire baisser fortement le pic de consommation d'énergie, c'est-à-dire le pic que l'on connaît tous souvent au mois de février et qui fait atteindre des records absolument majeurs. Et le pic français correspond à la moitié du pic européen. Donc c'est un véritable enjeu que nous avons, nous, Français, pour l'indépendance énergétique de toute l'Europe.
Merci François Damerval. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional et conseiller municipal de Draveil. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.